magazine que vous allez suivre est une rediffusion.
Le Club RFI, Éric Amien.
Le Club RFI, de loin, l'émission la plus proche. Bonsoir à tous, bienvenue au Club, le magazine des initiatives des clubs RFI. Pour mieux connaître l'histoire de la traite de l'esclavage atlantique, les membres du Club RFI Ouida ont visité certains lieux mémoriels historiques de la ville, comme la route de l'esclave ou encore l'arche commémoratif, la porte du non-retour, située au front de mer de la ville.
Initiative des clubs.
Le Club RFI Ouida a une approche historique dans ses activités, des lieux historiques qui rappellent l'histoire de la traite des esclaves de l'Atlantique, cette ville où 1 million de personnes ont été embarquées sur des navires à destination des colonies des Amériques. Et avec nous pour nous en parler, bonsoir Ernesto Alaro, président du Club RFI Ouida. Comment ça va?
Bonsoir Eric, je suis en pleine forme.
Dis-nous pourquoi avec les membres du Club RFI, vous avez décidé, derniers temps, d'aller connaître l'histoire de la ville de Ouida où vous êtes.
En fait, nous avons organisé cette visite pour faire connaître aux jeunes la place non négligeable que Ouida a occupée lors de la traite négrière.
Alors, comme le veut la tradition dans cette émission, vous avez effectué vous-même votre reportage pour nous montrer un peu comment s'est passée cette initiative du Club RFI Ouida. On écoute le reportage.
Ce soir, nous vous emmenons en excursion sur la route des esclaves. Nous allons, vous et nous, refaire avec calme et compassion le chemin qu'empruntaient autrefois les esclaves pour rejoindre les navires qui les emmenaient loin de leur terre natale, l'Afrique.
Les enfants les plus valides ont été arrachés au continent noir pour alimenter commerce triangulaire.
Le patrimoine culturel de la ville de Ouida regorge de nombreux trésors et sites touristiques qui font sa fierté et témoignent de sa grandeur passée. Nous sommes sur la route des esclaves, une route qui, partant de la place aux enchères jusqu'à la porte du non-retour, s'étend sur une distance de pas moins de 3 km. Composée de 6 étapes bien structurées, elle est la preuve que Ouida était réellement la plaque tournante du honteux commerce d'esclaves noirs déportés dans le Nouveau Monde, c'est-à-dire en Amérique, entre le 16e et le 18e siècle. Cette fameuse route des esclaves, restaurée en 1992 à l'occasion du premier festival mondial des arts et des cultures vaudou, dénommé Ouida 92, retrace le calvaire subi par les esclaves avant d'être embarqués pour une destination qu'ils ne maîtrisaient pas. La première étape est bien sûr la place aux enchères, appelée à tort aujourd'hui place Tchatcha. Monsieur Modeste Zinsou, guide à l'office du tourisme de Ouida.
Vous avez le marché des esclaves que nous appelons la place aux enchères, où c'est marqué la place Tchatcha. Cela n'a jamais été une place Tchatcha. C'est le marché des esclaves, c'est le lieu de le souligner. Donc c'était sous ce tabre, en cette place que se tenaient les enchères publiques, où nos grands-parents destinés à être déportés étaient échangés et contre ce que nous appelons des pacotilles, des miroirs, des chapeaux, tout ce que vous voulez.
Après l'étape de la place aux enchères, où des hommes et des femmes réduits à l'état de sous-hommes étaient vendus ou échangés contre des produits de très peu de valeur aux commerçants européens, suit une autre étape. Il s'agit du tour de l'arbre de l'oubli.
Après cette étape de vente où ils sont vendus et prennent la direction de la plage, nous devons d'abord faire le tour de l'arbre de l'oubli, qui fait la deuxième étape de la route de l'esclave depuis Ouida. L'arbre de l'oubli où les esclaves qui sont femmes devront faire 7 fois le tour, parce que la tradition dit que la femme a 7 côtes, et 9 fois le tour chez l'homme, parce qu'également la tradition nous dit que l'homme a 9 côtes, ce qui n'est pas prouvé scientifiquement. Le tour étant accompli, c'est que nos parents devenaient complètement amnésiques. Ils oubliaient leur passé, leur origine et même leur identité culturelle. Et c'est pour devenir des êtres sans aucune volonté de réagir ou même de se rebeller. Vous le voyez aujourd'hui, l'arbre même n'existe plus. C'est représenté par un monument, la sirène, qui représente un peu l'esprit de tous les esclaves morts dans le bateau, mais jetés à la mer. Deuxième étape.
C'est un péché commun entre vendeur et acheteur.
Une fois le tour de l'arbre de l'oubli accompli, Les esclaves vont alors rentrer dans un village du nom de Zumbodji. Ici, les conditions de vie étaient inhumaines.
Après cette étape, ils vont rentrer dans un village du nom de Zumbodji, où il y a une case où on les mettait en attendant l'arrivée des bateaux. De nos jours, la case même n'existe plus, mais c'est juste l'emplacement qui reste avec un peu comment ils étaient disposés dans la case. Si vous l'avez visité, vous verrez bien, ils leur mettaient du fer dans la bouche. C'est simplement pour les empêcher de se communiquer.
Dans ces conditions, beaucoup d'esclaves succombaient. Ils étaient alors jetés dans une fosse commune.
Mais vu les conditions dans lesquelles on les mettait, forcément, il y en avait beaucoup qui mouraient. Et quand il y en avait qui mouraient, on les jetait tous dans la fosse. Donc en 92, ici, il y a une fouille archéologique qui a été organisée. Et là, on a retrouvé les ossements avec les chaînes authentiques. C'est ça le cimetière des esclaves.
Au sortir du village de Zumbodji, les esclaves ayant survécu à l'épreuve de la case de Zomachi faisaient ensuite le tour de l'arbre de retour. C'est la cinquième étape de leur parcours avant l'embarquement.
Après cela, vous avez le tour de l'arbre de retour parce que là, c'est la sortie du village. Donc avant de sortir du village, cette fois-ci, homme comme femme, on leur faisait faire trois fois le tour de là pour dire partez, mais il va falloir que l'esprit revienne en Guinée. Donc le retour dont on parle, c'est pas le retour physique, le retour mystique, un peu le retour de l'âme. Et la visite, elle finit à la porte du non-retour.
Il l'a si bien dit, la porte du non-retour est bien sûr la sixième et dernière étape à franchir par les esclaves pour quitter définitivement leur terre natale.
Nos parents arrivés à cette étape se disaient qu'ils foulaient pour la dernière fois le sol de l'Afrique et s'en allaient vraiment sans espoir de retour. Le monument érigé, c'est simplement, vous avez une porte où quand on regarde sur la porte, on voit les esclaves, ils font dos à Ouida et face à la main pour dire qu'ils vont vers le destiné inconnu, ils savent pas là où on les amène. C'est-à-dire quand ils le partent, il n'y a plus de retour. D'où la porte du non-retour.
Monsieur Modeste Zinsou, guide à l'office du tourisme de Ouida, revient et souligne ici l'importance du mémorial Zomachi érigé par le professeur Honora Agassi en plein cœur de la route des esclaves.
Vous avez le monument Zomachi qui s'est érigé, qui ne fait pas partie du circuit de la route de l'esclave, mais c'est quand même un monument de retour des esclaves à la terre natale. Parce que quand on dit 1492, on dit que Christophe Colomb a découvert l'Amérique. 1992, donc quand même, il y a des frères qui sont revenus. Depuis 92. Donc ça, c'est un monument qui ne fait pas partie du circuit de la route de l'esclave, mais qui est quand même un monument de retour des esclaves à la terre natale, qu'il faut forcément souligner, si vous voulez, qu'on le veuille ou non, quand même, ça fait partie aujourd'hui des monuments de l'histoire de la route de l'esclave. Je le précise bien, partant de Ouida, parce que si on part depuis sa vie, il y a d'autres étapes, mais quand nous partons depuis Ouida, vous avez la place aux enchères, l'arbre de l'oubli, le village de Zumbodji qui est composé de la case, du cimetière, de l'arbre de retour et de la porte du non-retour.
Ouida est une magnifique ville de souvenirs. L'esclavage ayant été aboli le 27 avril 1848, sous l'impulsion du sénateur inamovible français Victor Schœlcher, la ville garde depuis toujours les traces de ce passé douloureux pour le commun des mortels.
L'histoire de Ouida, un reportage de Maxime Thibozo, membre du club RFI Ouida. Ernesto Alao, alors est-ce que cette histoire est enseignée à l'école au Bénin?
Oui, naturellement, en classe de 4e, c'est au programme.
On va tout de suite écouter la réaction d'un des membres qui disait comment il a trouvé cette initiative engagée par le club RFI Ouida.
Merci, j'ai vraiment aimé cette visite et je suis satisfait. La traite négrière est une grande partie de l'identité culturelle de l'homme noir et il est impératif de retracer cette histoire, ce que nous venons de faire. Tout homme noir doit connaître son histoire.
Ernesto, c'est une initiative que vous allez encore faire avec d'autres personnes bientôt ou pas?
Oui, c'est une initiative qui va perdurer. Nous envisageons aller à Cotonou pour sensibiliser les jeunes.
Le cousin du club.
Le cousin du club, il s'agit d'Emmanuel Gordien. Il est virologue, chef de l'unité de virologie de l'hôpital Avicenne à Paris. Il fait partie du corps médical qui lutte depuis plus d'un an contre le coronavirus. Il est aussi président du comité Marche du 23 mai 98, une association qui avait organisé à Paris en 1998 une marche silencieuse historique et qui avait rassemblé plus de 40 000 personnes dans les rues de Paris. Pour honorer la mémoire des aïeux victimes de l'esclavage dans les colonies françaises. Et puis, je rappelle aussi que 100 000 personnes avaient signé une pétition pour demander au gouvernement français de reconnaître l'esclavage et la traite négrière comme crime contre l'humanité. Bonsoir Emmanuel Gordien.
Bonsoir.
Alors, quelle est votre réaction par rapport à ce reportage du club RFI Ouidac?
Eh bien, moi, je suis non seulement content, je suis ému et je suis jaloux. Je suis content parce que des jeunes qui font ce trajet-là, je crois que c'est très très important pour savoir une partie importante de l'histoire de l'humanité. Et je suis ému parce que moi-même, je suis allé. Et j'ai fait ce voyage, d'ailleurs, depuis 2014, tous les ans, je vais au Bénin. J'ai des amis là-bas. Et je suis jaloux parce que j'ai envie d'organiser ça avec mon association. Et j'ai envie de faire des voyages organisés comme ça pour pouvoir leur permettre de visiter, et en particulier de visiter la route de l'esclave et de le faire à pied. Je pense qu'il faut le faire à pied. Oh. Mais aussi, j'ai envie qu'on aille aussi au village de Ganvier, qui est un village assez extraordinaire, qui est sur l'eau. Voilà, c'est pour ça que c'est ça les sentiments que j'ai en ayant écouté ça tout à l'heure.
Vous êtes de l'île de la Guadeloupe, dans la Caraïbe, et puis vous avez tenté de chercher vos origines et vous avez essayé de voir comment aller justement vers l'Afrique, vers la terre des ancêtres. Alors raconte-nous succinctement comment ça s'est passé.
Eh bien, c'est très simple, depuis que je suis tout petit, mon papa nous racontait ça. Parce que mon papa a connu les deux derniers fils de l'Africain qu'on a déporté à la Guadeloupe. Et il se trouve que par un concours de circonstances extraordinaires, j'ai rencontré en France, à Paris, j'ai rencontré le prince Guézo, qui est le descendant du roi d'Abomey, qui était l'un des rois les plus puissants, d'ailleurs, qui était l'un des grands organisateurs de la traite, d'ailleurs. Et quand il a vu que je connaissais tout ça, il m'a dit, il faut que tu viennes au Bénin. Je suis allé au Bénin. J'ai rencontré beaucoup de gens au Bénin, et en particulier les rois, le roi de Kétou. Et quand je lui ai raconté mon histoire, je lui disais que mon aïeul s'appelait Georges Diboïki, qui on l'a appelé Gordien à l'abolition de l'esclavage. Il m'a dit, mais je connais les Boïki c'est dans son royaume. Et il m'a dit, je peux me faire rencontrer ces personnes-là. Alors effectivement, deux ans après, il y a un ami très cher à moi qui est cinéaste, qui connaissant l'histoire, il a fait un film qu'on appelle Citoyen Bois d'Ébène, qui raconte toute cette histoire. Et effectivement, j'ai retrouvé au village de Zian, qui est un peu au centre-est du Bénin, à la frontière avec le Nigeria, le village où effectivement habite la famille Boïki. J'ai fait la jonction avec eux.
Alors, chers amis du club RFI Ouida, vous avez certainement deux, trois questions à poser à Emmanuel Gordien.
Bonsoir, monsieur Emmanuel Gordien.
Bonsoir.
Dites-nous pourquoi avez-vous cherché à connaître vos racines.
Mais c'était parce que dans mon association, on travaille sur ça. Nous, on voulait comprendre qui on était. Est-ce qu'on est français? Est-ce qu'on est africain? Est-ce qu'on est caribéen? Qu'est-ce qu'on est? Et en fait, on sait qu'on est des enfants qui sont issus de l'histoire de l'esclavage colonial français. La déportation et la mise en esclavage à la Guadeloupe, à la Martinique, dans toutes les îles aussi de la Caraïbe, et même dans l'océan Indien, à la Réunion par exemple, où il y a eu l'esclavage. Et il y a un ami Évé du Togo qui nous dit, si tu veux savoir qui tu es, il faut savoir qui t'a cuit. Et nous, on savait qu'on avait été cuit par l'esclavage colonial, et c'est pour ça qu'il était important de comprendre cette page d'histoire. Et comme moi, j'avais des éléments très concrets de mon papa, à partir de ça, on a fait la recherche généalogique, on est remonté, et on a trouvé jusqu'au premier, donc, qui s'appelait Georges Boïki, qu'on a appelé Gordien, et après, c'est la chance. C'est les dieux qui nous ont mis en contact avec le prince Guézo, et après, on est parti, effectivement, et on a trouvé, donc, cette histoire-là.
Tober Efi Ouida, une deuxième question à votre invité, Emmanuel Gordien.
Bonsoir, monsieur Emmanuel Gordien. Ici, c'est Raoul Dehoub, chargé de communication du club RFI Ouida. J'aimerais savoir, quelles sont vos difficultés dans le processus de rencontrer réellement votre racine?
Mais le problème, il est très simple. C'est qu'on a pris des gens d'Afrique, mais de toutes les régions d'Afrique. Il n'y avait pas encore les nations. Avant, c'était différents royaumes, c'était tout le territoire. Et bien, on a pris des esclaves partout. Et ils ne se comprenaient pas. Alors, il y a des esclaves qui sont Mina, des esclaves qui sont Yoruba, qui sont Moko, qui sont Hausa, qui sont Ibo. Et donc, le problème, c'est que quand ils partaient, quand on les prenait, on les mettait sur un bateau, il n'y avait pas tout le temps leur nom de marqué. On ne sait même pas de quelle région d'Afrique ils venaient. Et donc, quand ils arrivent là-bas, on les met ensemble. après plusieurs siècles, mais personne ne sait qui était le nom. Et c'est pour ça que c'est presque impossible pour la majorité des gens de retrouver les racines en Afrique.
Quels sont vos sentiments après avoir constitué vos origines?
Eh bien, moi, comme j'ai retrouvé ça, il y a un village qui m'a adopté. J'y vais tous les ans. Et on a décidé ensemble de faire une école dans le village pour apprendre à lire aux femmes. Et dans un deuxième temps, comme c'est souvent c'est des paysans qui sont là-bas, je leur ai dit, eh bien, écoutez, on va monter une coopérative un jour. Moi, je vais apporter ce que je peux vous apporter. Mais vous allez acheter du bœuf, des chèvres, des poules. Vous allez développer tout ça. Et là, vous savez quoi? Ils m'ont donné une parcelle de terre dans le village. Et j'ai l'intention, effectivement, d'aller construire une petite maison là-bas. Je suis quelqu'un du village. Ils m'ont dit, depuis le temps qu'on prie pour que vous reveniez, on ne va pas vous laisser repartir. C'est un retour sentimental très profond. C'est un retour. On a refait la jonction. J'ai même créé un concept avec eux quand on est allé là-bas. J'ai parlé avec eux du triangle de la réconciliation. Moi, je ne suis pas béninois. Mais j'ai même dit que je vais prendre la nationalité béninoise si on me la donne. On me l'a proposé, je vais la prendre. Je suis guadeloupéen, même temps je suis français. Donc, en fait, l'histoire a fait que tous ces gens-là se sont rencontrés dans des conditions compliquées et difficiles, mais nous sommes des humains, il faut vivre ensemble. Oh. Et c'est ça que moi, je veux mettre en avant.
Une dernière question, Club RFI Ouida.
Je suis Maxime Awemadiawini Tibozo, celui qui a présenté le reportage tout à l'heure. Monsieur Emmanuel Gordien, quel est un peu l'appel que vous avez à lancer à l'endroit des afro-descendants qui n'ont pas encore la chance de découvrir Ouida, de découvrir toute cette richesse historique? Quel appel avez-vous à lancer à leur endroit?
En tout cas, l'appel que j'ai à lancer, c'est que essayez de vous rapprocher, je dis ça à tous les Antillais, tous les descendants d'esclaves, afro-descendants comme vous dites, vraiment d'essayer de se rapprocher de leurs compatriotes africains, de parler avec eux. Tout simplement, me parler de la vie. Et ne pas prendre une sorte de regard comme les Européens prennent, une sorte de regard de mépris par rapport à l'Afrique. Au contraire, c'est là qu'on a à apprendre. C'est la vie des gens qui est importante.
Alors, on a une surprise pour vous. On a avec nous le prince Guesso qui, justement, a permis cette relation entre Emmanuel Gordien et le Bénin. Bonsoir, prince Guesso.
Bonsoir.
Vous avez accompagné Emmanuel Gordien dans cette démarche de retrouver ses ancêtres. Alors, le fait aujourd'hui d'entendre Emmanuel Gordien et les jeunes du Club RFI discuter ensemble, ça vous fait quoi?
Ça me réjouit parce que nous portons un poids en particulier, entre autres Ouida, parce que Ouida est toujours associé à la traite proprement dite. Et donc, quand on est Ouidanais, c'est un fait, c'est l'histoire qui parle. J'encourage les jeunes à s'intéresser à l'histoire globale, l'histoire monde, parce que cette histoire, c'est ça qui fera qu'on sera fiers et on assumera l'histoire, qu'elle soit belle ou non, c'est notre histoire. Voilà.
Emmanuel Gordien.
Alors, grand merci à RFI de permettre ce moment de partage formidable, ce moment d'émotion formidable qui montre que les hommes, quels qu'ils soient, où ils soient, ils sont faits pour vivre ensemble.
En tout cas, encore merci à vous, hein, Prince Guesso, Emmanuel Gordien, Ernesto Alao et tous les membres du club RFI. Retrouvons-nous samedi prochain avec d'autres initiatives, toujours aussi enrichissantes. Prenez soin de vous et de vos proches. Et on vous quitte avec le titre choisi encore par le club RFI Ouida, l'Africain de l'artiste One Day. Africain, you're
se dit